Marie, de temps en temps, quand elle se promenait avec sa belle-sœur, lui parlait de ce projet. Elle s'y accoutumait, l'acceptait tranquillement, sans ardeur, mais comme si c'était le plus agréable et le plus sage de ce qu'il y avait à faire. « Jérôme est très intelligent, n'est-ce pas ? » demandait-elle. « Et bon, il est bon pour ma mère. L'autre jour, il a été très bon pour l'enfant du jardinier qu'une abeille avait piqué. Il l'a pris par la main et l'a fait entrer chez le pharmacien. « Mais oui, disait Sabine à tout cela, mais oui !» comme si elle était bien contente que Marie lui propose des exemples de la bonté chez cet homme, car, pour elle, elle ne pensait pas qu'elle aurait pu en trouver. Jérôme n'était pas encore assidu auprès de Marie. Il lui paraissait correct d'attendre la réponse de la jeune fille avant de prendre une attitude décisive. Il travaillait, faisait de longues promenades, seul dans la montagne, témoignait une amitié à Sabine, où rien n'était changé, qui pouvait durer toujours. Mais Madame de Fontenay fuyait sa présence. Le soir, elle se retirait souvent dans sa chambre et lisait jusqu'au sommeil. Elle se défiait de ce qui était si peu encore affaibli en elle. Les yeux de ce garçon, des yeux qu'il fixait sur elle, sans intention, par habitude de regarder ainsi lentement, lui faisaient encore trop de mal. Et cela la prenait par surprise. C'était des trahisons de sa fierté à elle, une affreuse angoisse violente et basse, dont elle avait trop de douleur après. Elle se souvenait qu'un de ces derniers soirs, justement, comme elle passait dans le salon cherchant quelque chose sur la table près de la fenêtre ouverte, elle le vit assis sur le rebord de cette fenêtre. Il était là, entre la lumière d'argent de la nuit et toutes les lueurs jaunes des bougies du salon. Sans même y penser, elle s'arrêta un instant, le regarda, et elle ne pouvait pas enlever son regard. Lui la regardait naturellement, pas ému. Un grand sanglot aride était dans son âme à elle. Elle contemplait ce visage où tout la tentait, et ses dents se serraient amèrement. Et elle eut une envie cruelle et douloureuse, une sanguinaire envie de prendre durement contre elle le jeune homme et de voir de la joie sur ce visage, de la douleur ou de la joie épouvantable, mais quelque chose qui fut d'elle. Cette pensée ne dura qu'un instant. Emplie de honte, elle détourna les yeux et, lasse d'un si rude élan du cœur, elle passa la fin de cette soirée à pleurer secrètement. Un jour que Marie et Sabine causaient ensemble et que la jeune fille, résolue à ce mariage que sa mère encourageait, parlait de Jérôme, « Tu vois, ne put s'empêcher de dire Sabine, toujours obsédée, tu vois, toi qui croyais autrefois qu'il était amoureux de moi. »« C'est vrai, répondit Marie simplement, je l'ai cru d'abord, et puis j'ai vu que je me trompais. » Ce fut pour Sabine une blessure, au moins qu'on lui laissât le passé. Son passé misérable, elle répondit trop vivement. Et puis, si cela a été un peu, c'est sans importance. Il ne te connaissait presque pas dans ce temps-là. Marie eut de l'étonnement dans ses yeux tranquilles. Elle avait senti l'hostilité du ton, mais elle avait l'habitude de ne rien juger de Sabine. D'ailleurs, les complications lui échappaient. Jérôme l'aimait, donc il n'en aimait pas une autre. Et l'idée qu'elle avait de sa belle-sœur, idée haute, déférente et passionnée, faisait qu'elle ne supposait jamais qu'on pût, à celle-là, lui enlever quelque chose, qu'on pût l'appauvrir, lui faire du tort, lui faire du mal. Elle ne l'imaginait pas amoureuse, elle la croyait une orgueilleuse, une curieuse et une rieuse, avec des moments amers et malades. Elle avait parlé un jour de ce caractère avec le cousin de Sabine, Louis de Rosé, et il disait que sa cousine était une de ces femmes auxquelles les hommes, il croyait que les hommes étaient naturellement tendres et malheureux, auxquelles les hommes feraient bien de ne pas s'attacher, car elle devait être sans autre ardeur que son rire et son admirable vanité. Pour lui, il se réjouissait d'avoir su se défaire du tourment qu'elle lui avait donné autrefois, quand elle était presque encore une petite fille. À ce moment déjà, disait-il, L'amour qu'elle sentait autour d'elle lui inspirait un contentement cruel du visage, cet air rassasié des belles bêtes. Il trouvait que le sentiment d'être aimé, qui doit incliner la femme vers l'homme, en pitié du moins, la jetait, elle, en dehors, vers la vie, vers d'autres rêves vagues et sombres, à quoi le pauvre amoureux n'avait jamais rien à voir. Il disait cela avec ses anciennes rancunes. Marie objectait qu'elle ne l'avait pas connu dans ce temps-là, et que maintenant elle ne semblait point ainsi. « Oh si, pour nous si, » répondait-il. « Et nous, c'étaient les hommes. Pas braves, pas courageux, devant l'amour. » Sincère et fin, le jeune officier avouait plaisamment qu'il n'aimait pas l'énigme des yeux difficiles, et que beaucoup de ses amis étaient comme lui. Ils aimaient que l'aventure et la passion fussent ce qu'ils en savaient déjà, des recommencements sans aléas et sans danger, la femme désirable et consentante, avec autour d'elle seulement le mystère de sa robe et de son parfum et de ses mensonges prévus. Et alors lui et les autres se garaient des coquettes orgueilleuses de leurs joues, des femmes qui n'ont pas peur de l'homme, de celles qu'on ne tient jamais. Tandis que Louis de Rozay jugeait ainsi Madame de Fontenay, elle allait dans la vie, surprise et douloureuse, étonnée de sa blessure, s'efforçant de relever son âme qui retombait au-dedans d'elle. Elle se réjouit que Pierre Valence fût rappelé à Paris et la quitta. La bonté qu'il lui avait témoignée le soir de ses larmes, le silence affectueux où ils étaient entrés ensuite et désormais d'un commun et muet accord à l'égard de ce sujet, fatiguaient en elle la reconnaissance et le souvenir. Elle avait maintenant une très vive certitude du caractère de Pierre. Elle sentait qu'il recherchait le contentement, aussi nécessaire que l'air, et qu'il était mal à l'aise dans la longue pitié. Alors elle s'était appliquée, en manière de remerciement, à simuler l'indifférence, la gaieté retrouvée après l'accidentelle tristesse, et elle avait vu que cet effort réussissait, que Pierre avait oublié le passé, et tout cela l'exténuait. Monsieur de Fontenay, que le prochain mariage de sa sœur satisfaisait, avait du fond de son cœur sincère, et pour plusieurs mois, l'attitude de quelqu'un à qui il arrive un heureux événement de famille. Il s'amusait de Marie et de Jérôme, fiancés maintenant, les taquinait, les poursuivait, les isolait, leur faisait des plaisanteries que Sabine écoutait avec, jeté vers son mari, un sourd regard de colère où jouaient les secrètes vengeances du souvenir. Elle avait beaucoup souffert au moment des fiançailles, de l'instant où, riant et pleine d'entrain et d'habileté fraternelle, elle avait dit à Marie en la poussant vers Jérôme « Maintenant, vous pouvez vous embrasser !» Et elle avait senti pendant plusieurs jours, de l'un à l'autre de ces êtres, la gravité attendrie de la vie échangée, l'invisible chaîne qui les empêchait presque de s'écarter longuement. Il était à elle, elle était à lui, dans le consentement de l'ordre social et de la nature respectueuse. Et cela les bouleversait, bouleversait la jeune fille donneuse de soi-même et le jeune homme, maître d'une autre destinée. On les laissait se promener ensemble. Sabine exagérait la discrétion, se retirait de partout, en ressentait de l'humilité et de la fâcherie. Elle jouissait durement et jusqu'à la plus aiguë douleur de tous leurs gestes surpris. Attitude touchante et faible des êtres que l'attente lasse et qui, épuisés de chasteté, s'assoient doucement l'un près de l'autre, se tiennent les mains sans désir. Sabine se sentait si seule, si malheureuse, qu'elle pliait vers Henri, se réfugiait près de lui, revivait un peu de passé, de candeur, d'amour. Et lui la recevait simplement, sans nouvel élan, n'ayant jamais trouvé rien de changé. La jeune femme s'occupait aussi à défendre Marie des vivacités de sa belle-mère qui voyait dans ce mariage une question de trousseau, une obligation de se rappeler à la mémoire de quelques dames âgées et importantes. Elle organisait sur de nombreuses listes ce que serait la cérémonie, les invitations, les cadeaux. Elle n'envisageait du bonheur de sa fille que le déménagement. Sabine fut contente que le départ pour Paris se trouvât nécessairement avancé cette année-là. Elle en avait assez des beaux aspects de l'automne, des matins trempés de rosées rondes, de voir dans le salon Marie et Jérôme entrer, gelés de leur promenade, essoufflés, contents, et se chauffer dans la bonne odeur des feux de campagne, où brûle du bois déchiré, de la résine et des pommes de pin. Elle avait assez des longues soirées où l'on entendait leurs deux voix basses et le vent autour du château, tandis qu'elle, son mari, sa belle-mère, restaient de l'autre côté de la pièce, auprès de la table et des livres, comme de vieilles gens, pour qui les paroles qui se disaient là-bas ne sont plus faites. Si cela continuait, elle allait mourir de sentimentalité, en mourir, en pleurant dans les mains d'Henri, et elle soupirait. « Il va y encore avoir le mariage, cette atroce cérémonie du mariage. » Elle pensait que Jérôme aimait Marie, qu'il l'aimait un peu avant, et maintenant davantage. Il était de ces êtres qui ne se donnent qu'au lieu de l'arrivée, quand la certitude paisible ouvre et clôt le désir. Au retour à Paris, ce fut pour tous le temps pressé, bousculé. Sabine et sa belle-sœur vivaient dans les magasins, on ne tenait pas compte de Jérôme. On ne le voyait presque plus, tant il était de son côté intéressé à empaqueter son ancien appartement, ses vieux papiers, sa vie de garçon. Et le jour du mariage vint, un jour très froid au commencement de décembre. Sabine n'en finissait pas de terminer sa toilette. Elle avait besoin d'être très bien ce jour-là pour elle-même, afin de se plaire et de n'être pas trop triste. Impatiente, un peu distraite par sa hâte, pressant Henri, elle arriva de bonne heure avec lui à l'église. Il faisait humide dans cette église malgré le chauffage, et tout au bout seulement les cierges, les fleurs égayaient, donnaient l'idée de la fête. La mariée n'arrivait pas, le marié non plus. On attendait, on parlait. Enfin, mademoiselle de Fontenay descendit de voiture avec sa mère. Marie était jolie, quoique embarrassée de sa robe lourde et de son voile. Elle ne regardait personne. Jérôme était là, il paraissait ému. Le cortège se mit en marche vers l'autel et l'orgue gonflé laissa crever son mystique orage. La cérémonie fut lente, longue. Sabine voyait Jérôme de dos et par moments de profil. Il était grave et ne bougeait qu'avec une extrême attention. Elle sentait comme il était attendri de son importance. Le prêtre fit aux deux jeunes gens l'éloge de leur famille, de leur propre mérite, et voici que les violons, enduits de rêves, commencèrent de frémir, et que des chants d'hommes et d'enfants éclatèrent dans la tribune, au haut de l'église. C'était une allégresse terrible, un hosanna exténuant d'archanges éperdus, un essoufflement divin. Ensuite, un ténor chanta seul, et la musique irréligieuse, la perfide musique profane, imitait la barcarolle, le glissement des rames et de l'eau, les soupirs de l'amant sous le balcon de l'amante. Sabine voyait trembler les langues d'or des bougies, les bouquets blancs des fleurs de l'autel. Sur leur siège de velours, Marie et Jérôme étaient tout pâles, troublés de grandeur. Cette étonnante ivresse, ce ciel déchaîné, c'était pour célébrer leur pauvre amour. Cette fête d'or et de feu les rendait précieux l'un à l'autre. Sabine fut jalouse. Jalouse de penser que pour elle, il n'y aurait plus jamais cette pompe, cet apparat. Quand elle aimait un homme, les cieux ne s'en mêlaient plus. Et le ténor continuait d'exhaler sa plainte vers la Vierge Marie. Ceux qui ont soif et le délire doivent appeler l'eau comme cela dans le désert, pensait Sabine. Elle s'était avancée un peu et voyait mieux maintenant le jeune époux à qui le pieux triomphe donnait une gravité touchante, un désarroi contenu, mêlé de reconnaissance, de modestie et d'orgueil. La lumière des bougies sur sa figure et ses mains le faisait irréel, illuminé comme Noël et Pâques. Le cœur de Madame de Fontenay mourait d'émotion. Elle eut tout d'un coup le plus fort attendrissement de sa vie, une envie infinie de caresser de ses deux mains toute la tête pâle, de dire à ce garçon « Mon amour, mon enfant, venez, vivez dans mes bras, dans mes cheveux, dans mes larmes !» Cette journée fut mauvaise pour Sabine, et le soir encore, elle se représenta longuement le départ des jeunes gens pour l'Italie, le voyage dans le wagon sombre, bousculé par la vitesse et par les rails. Et puis, au bout d'une semaine, ayant épuisé les forces de l'imagination, d'un mouvement de rupture finale, elle arracha le reste de son cœur à ce souvenir, les dernières fibres cassèrent, et cet homme fut mort en elle. Elle entrait dans une autre vie. Deuxième partie. L'âme qui se fuit elle-même et qui se rejoint elle-même dans le plus large cercle. Nietzsche. Chapitre 1. Elle voyait plus souvent maintenant Pierre Valence. Ils passaient des fins de journée ensemble, Henri, Pierre et elle. Mais Henri prenait l'habitude de faire de longues courses à pied avant le dîner. Il allait jusqu'à Suresnes ou Sèvres. Alors, Madame de Fontenay et Pierre restaient seuls après le thé et causaient. Ils avaient de commun d'identique l'orgueil et la sincérité. Pierre s'étonnait qu'elle parlât si sûrement de tout, des passions, des désirs, de toutes les subtilités de l'être. Il le lui disait. Elle répondait, grave, regardant en arrière dans son âme. Oui, peut-être est-ce bien que le passé ait été ce qu'il a été maintenant. Toutes mes veines ont de l'intelligence. Il la plaisantait en souriant sur les mots qu'elle employait volontiers. Vous aimez beaucoup le mot cœur. Oh oui, avouait-elle, n'est-ce pas? C'est le mot charnel et sensible, le mot rond dans lequel il y a le sang. Et les mouvements de ses mains modelaient ses phrases. Pierre n'était pas curieux, il ne cherchait pas à savoir ce qu'elle pensait dans le moment, il ne lui parlait jamais du passé, il avait du fond de son cœur oublié. Quelquefois, à l'heure où Sabine rentrait de sa promenade ou de ses courses, elle se croisait dehors avec lui qui arrivait chez elle. Ils faisaient quelques pas ensemble et regardaient les paysages. « Comme c'est beau tous ces petits pays en sucre dur !» disait Sabine qui montrait ce jour-là les collines basses et le mont Valérien dans la neige. « La neige a de nobles manières, ajouta-t-elle. Remarquez-vous que les moindres choses, les choses pauvres et laides, deviennent précieuses avec elle, par exemple les tuiles et les ardoises, la cour silencieuse d'une maison, ou bien ici, sur la route, cette brouette du balayeur avec un balai en travers. Cela fait de petits morceaux de tableaux charmants. Je vois l'hiver comme les vignettes d'un livre allemand, des toits de maisons d'Alsace avec un nid de cigogne. » Il s'amusait de ce qu'elle inventait. « Et comment voyez-vous l'été ? » lui demanda-t-il. Elle réfléchit, elle dit « Je le vois terrible, dans les provinces persanes, enfoui sous des feuillages d'un vert noir où fuse l'haleine des serpents. Et puis, de l'eau qu'on entend, qu'on ne voit pas, un bruit d'eau de luxe qui retombe par petites gouttes sur du marbre et qui rend fou car on meurt de soif et du désir de tout dans mon été. Moi, interrompit Pierre, je le vois avec les yeux de la carpe qui souffle des bulles d'air sur les étangs des fables de la fontaine. Vous souvenez-vous de cette carpe délicieuse et heureuse? Et Sabine la connaissait bien, pour avoir, avec elle, laissé flotter sa pensée sur les petites ondes, le long du sable et des herbes françaises. Pierre se trouvait bien chez la jeune femme. Il s'y livrait abondamment à ses théories sociales. Sabine l'écoutait. Elle riait parfois de la manière enfantine dont elle imaginait les époques futures. « C'est tout à fait, lui disait-elle, comme la couverture illustrée des livres utopistes. Un grand demi-soleil, avec des rayons bien nets, comme à une roue, levé sur une plaine où le blé germe visiblement, et un homme nu qui a l'air à l'aise et heureux. Je crois que dans ce temps-là, ce sera toujours l'été, car les grêlons dérangeraient tout. » Mais elle était, plus encore que Pierre, passionnée de justice et de pitié humaine. C'était sa seule certitude que la pitié avait toujours raison. Elle lisait des livres de science, tout ce qui explique la vie, la pensée, l'homme faible et voué à son destin misérable. Elle aimait la vie, tous les signes de la vie. Sur des visages d'ouvriers peints de plâtre, elle avait surpris les plus douces lignes de la résignation et de l'harmonie intérieure, et ce spectacle lui ouvrait le cœur. Elle connaissait l'objection d'Henri à ses théories d'humanité. « Tu vis pourtant confortablement, lui disait son mari. Tu ne donnes pas ton salon et ton collier. » Mais Sabine sentait que cela ne voulait rien dire. Elle savait que la simple fortune qu'elle avait n'était pas hostile, que ses habitudes étaient intelligentes et douces, que de porter ses 50 perles à la rue n'eût servi de rien, et que c'était dans la clarté de l'esprit, dans la grande ardeur du cœur, dans le consentement et l'adhésion, que résidait le don essentiel, la force qui imprégnait l'air présent. D'ailleurs, ses goûts avaient changé. Elle n'allait plus dans le monde. C'était retirée du luxe cruel de l'amour, vivait à lire et regarder la nature. Henri se disputait souvent avec sa femme et son ami. Il avait un singulier esprit habile et fermé. Il choisissait dans la vérité, prenait une part, repoussait l'autre, qui semblait pourtant aussi nécessaire, aussi indispensable à la vérité même. Et Sabine criait de cette mutilation de ce qui lui semblait l'absolu. Monsieur de Fontenay avait aussi une manie adroite et obscure de confondre la coutume avec la raison. Il aimait que les délinquants fussent, dans leur âme, coupables. C'était de la conscience atavique, un besoin de rigueur justifiable. Il se fâchait, disait à Sabine. « Alors toi, avec ce raisonnement contre le libre arbitre, tu pourrais commettre tous les actes ?» Et c'était des heures pour expliquer que, puisqu'elle n'avait pas la possibilité de ces actes-là dans ses nerfs et son cerveau, elle ne pouvait point les commettre, et que la conscience était une des pièces de l'involontaire. Mais lui restait convaincu que les savants et les philosophes établissaient l'irresponsabilité pour se libérer du devoir. On ne s'entendait jamais. « Enfin, comment voudrais-tu la justice ? » demandait Henri. À quoi Sabine répondait ? La sensibilité que nous avons de nous-mêmes nous a instruits sur les causes des actions humaines. C'est irriter en moi le goût de vouloir et le goût de manger que de condamner le malheureux que la misère mène à voler son pain. Je voudrais que la justice fût simple, nourrie de science et trempée d'ingénuité. Que les hommes, appelés à juger d'autres hommes, eussent connu la contrainte, les tribulations. Qu'ils eussent le corps fraternel. Qu'observateurs exacts d'eux-mêmes, ils mesurassent bien quelle atténuation la culture et l'aisance ont apporté à leur violence primitive, et qu'ainsi renseignés, ils suivissent d'un œil brave et doux chez ceux qu'ils vont oser juger le parcours de l'impatience à la révolte, de l'invective à la lutte et de la colère au meurtre. Pierre souriait de contentement et Henri, agacé, avec le sentiment de se venger de telles idées et comme si c'était bien fait pour ceux qui les soutenaient, répliquait « Eh bien, si vous voulez que les criminels se promènent, vous verrez l'agrément que ce sera. » Mais Pierre ne tenait pas à la vie des criminels, des fous, des pauvres sanguinaires. Il pensait que les supprimer, c'était aussi les débarrasser eux-mêmes de leur oppression, les délivrer de la loi affreuse de leur esprit. Quand le relèvement n'était plus possible, la mort valait mieux peut-être que le bagne éternel. Seulement, il imaginait une mort que l'on rendrait simple et pitoyable, qui épargnerait tout le frisson aux malheureux. Sabine s'inquiétait. Elle ne voulait pas, elle, qu'on touchât à la vie. Mais quand Pierre, en causant, faisait des projets de réforme mentale par l'éducation, par l'hygiène, elle écoutait avec des yeux qui approuvaient d'une manière têtue, disant que c'était l'évidence. Lui et elle se fâchaient quelquefois pour d'autres questions sentimentales. Un soir qu'il soutenait que désormais en amour, il ne serait plus jaloux, sachant ce que vaut le cœur des femmes, Sabine s'indigna. Il fallait à Madame de Fontenay cette certitude que les hommes, tous les hommes, pussent encore être des amants sensibles et désespérés. Vers la fin du mois de janvier, Jérôme et Marie revinrent du voyage qu'ils avaient fait dans l'Italie glaciale, harcelée par un vent dur en poussière de verre. On se réjouit de leur retour. Maintenant, les jeunes époux avaient l'air de gens habitués. Leurs paroles, leurs actes se complétaient. Ils ne faisaient presque plus attention l'un à l'autre, étant eux-mêmes l'un et l'autre. On sentait leurs deux vies proches et rythmées comme pouvait l'être la nuit, leur sommeil et leur respiration jumelle. Ils se ressemblaient, ayant pris des manières pareilles de rire en hochant la tête, de simuler l'étonnement. Jérôme, heureux et posé, logeait dans le mariage comme dans un mobilier traditionnel et vénérable. C'est drôle, pensait Sabine, en regardant du fond de ses souvenirs, ce visage satisfait, un peu guindé, moi qui aimais en lui le rêveur secret, le héros faible et passionné, l'amant de la lune et des jardins, douloureux comme Henry Heine, voilà tout de même ce qu'il est. Alors, elle fut contente de pouvoir embrasser Marie sans amertume. Elle était seulement un peu triste de partager avec elle l'amitié de Pierre Valence. Pierre aimait les deux jeunes femmes également. Quoiqu'il connût Marie depuis plus longtemps, les derniers mois l'avaient aussi beaucoup lié avec Sabine. Il avait une fraternelle tendresse pour elles deux. Sa pensée, son regard, ne touchaient à elles qu'avec un respect prudent et naturel qui rendait leur familiarité délicieuse. Sabine avait compris, à son retour à Paris en octobre, que la liaison de Pierre Valence avec la comédienne était sur le point de se briser. Un jour, cette femme aventureuse eut assez des jalousies de Pierre et elle le quitta d'une manière cruelle et définitive. Pierre, après les colères de la rupture, les soupirs et les menaces, se reprenait à vivre agréablement. Pendant un mois encore, il souffrit des élancements de la mémoire et puis toute peine disparut. Il ne crut plus qu'il l'avait beaucoup aimée. Il était bien certain, du moins, qu'il ne la regrettait pas. Il parlait d'elle en plaisantant et mettait à cela son orgueil d'homme bien portant qui ne s'attarde pas aux places malsaines du souvenir. Henri et Sabine l'avaient un peu querellé sur les résolutions qu'il prenait de n'être plus amoureux, car l'amour était sa hantise mystérieuse. Henri de Fontenay, ayant été nommé maire de sa commune en Dauphiné, cette charge nouvelle le contraignit désormais à de fréquents voyages qui l'écourtaient autant qu'il le pouvait. Mais ces départs dérangeaient un peu l'ordre de la maison, les habitudes des repas pris ensemble, et Sabine se sentait seule, n'ayant plus rien de fixe dans sa vie. Ses journées étaient longues, elle ne voyait Pierre et Marie qu'à l'heure du thé. Quelquefois, le soir, elle allait avec eux au théâtre et elle revenait, lassée le plus souvent, n'ayant pas eu tout le plaisir qu'elle avait cru, contemplant d'un œil fatigué par la fenêtre gelée de la voiture, le morne Trocadéro tout en brouillard dans le silence de minuit. L'air de la nuit restait pour elle mystérieux et un peu sacré. Elle ne s'habituait pas à le regarder différemment. Un soir, dans un lieu à musique de cirque, tandis que sur la scène brillaient en maillot de soie et d'acier des héros, lutteurs et jongleurs, Sabine s'aperçut que Pierre Valence observait obstinément une femme trop parée, penchée au rebord d'une loge. Elle était belle, avec des yeux sombres et tourmentés, et des joues peintes du ton rose de Bengale. Pierre était assis entre Sabine et Marie. Quoique distrait par la personne qui l'intéressait, il s'occupait des deux jeunes femmes avec une amitié protectrice et fine. Et Madame de Fontenay, sans jalousie vive, pensait « Il nous aime, Marie et moi, doucement. Si doucement qu'il ne peut pas choisir entre nous deux. Alors, puisqu'il est un passionné, il s'en ira vers une de ces femmes » qui sont chargés de couleurs et de fleurs comme une saison. L'amour étant plus fort que toute amitié, nous perdrons notre ami, je perdrai l'ami assidu qui égayait un peu ma vie. » Cette inquiétude persista dans son être inconscient, et comme son inquiétude agissait toujours, elle modifia, sans qu'elle y prît garde d'abord, son attitude à l'égard de Pierre Valence. Plus de gêne, et de choix dans la familiarité remplacèrent la camaraderie. Maintenant, quand ils étaient seuls, il y avait des silences pendant lesquels le gros bouquet de violettes de Parme, écrasé dans une coupe d'eau près du divan de Sabine, paraissait exhaler son parfum intentionnellement, et l'air restait un peu phosphorescent et remué, comme si les mots qu'ils avaient dits, lui et elle, eussent eu de petits scintillements. Alors, ils avaient l'air tous les deux d'écouter ce que disait le silence, ce que disait le destin, et ils réfléchissaient un instant, absurdement, avec les yeux dans la brume des veilleurs sur les phares, et cela troublait ensuite la simplicité de l'adieu. Ses souvenirs disparaissaient car Pierre était distrait, mais le hasard, une discussion, l'obscure volonté de Sabine ramenaient de pareils moments. Le jour où elle s'aperçut qu'il était amoureux d'elle, elle éprouva non pas de la joie, les ressorts de sa joie étaient affaiblis, mais la tranquillité et le confort de s'être attaché l'amitié de cet homme. Pierre restait très à l'aise avec Henri. Le trouble qu'il sentait naître en lui à l'égard de la femme de son ami grandissait dans la confusion, et à la faveur de cette confusion, il ne s'expliquait rien. Il s'occupait au premier plan de son esprit, où était la curiosité. Il ne pénétrait point dans les régions plus profondes de lui-même, où était l'ombre. Par moments, quelques silences rares chez lui pesaient, et il apparaissait harassé dans ces instants-là, privé de ses forces et de son intelligence. Sabine, que cette intimité mystérieuse amusait, se faisait quelquefois des reproches. Elle se disait que ce n'était pas bien à elle d'avoir mené son amie à cette tendresse où elle ne pourrait pas le suivre, que c'était le gaspillage des plus hautes forces du cœur. Et qui pouvait savoir jusqu'à quelle détresse irait la violence chez cet être chez qui la passion était obscure? Pourtant, la bonté de Pierre la rassurait. Marie s'égayait des scrupules de sa belle-sœur. Elle lui disait « Que veux-tu, ce n'est pas de ta faute, c'est si naturel qu'il t'aime. Comment ne t'a-t-il pas aimé plus tôt? De quoi peux-tu te tourmenter, même s'il est un peu malheureux? Tu es un beau moment dans la vie des hommes. » Mais Sabine croyait que si, que c'était de sa faute. Elle se demandait pourquoi elle avait cette manie d'imaginer qu'un homme n'aimait jamais assez une femme quand il n'en était pas amoureux, et que l'amour était la seule grande amitié de l'homme. Cela venait de ce qu'elle avait si peur des restrictions du cœur. Pour les femmes, c'était différent. Elles pouvaient être des amies parfaites et pures, ayant en elles la source des tendresses maternelles. D'ailleurs, Pierre avait l'air content le plus souvent. La présence de Madame de Fontenay le soulageait et le réjouissait. Elle devinait que c'était plutôt loin d'elle qu'il devait être moins heureux. L'accord de leurs intelligences était très sensible. Lui s'emparait des acquiescements de la jeune femme à ses idées et de chaque moment du temps où elle lui souriait avec bonté pour s'en faire un instant de joie complète. L'hiver passait ainsi. Jérôme n'existait plus pour Sabine. Elle gardait seulement dans le cœur la place de l'avoir aimé et ce vide empêchait l'équilibre et la solidité de son caractère. Mon Dieu! Celui-là, comme elle avait dû l'aimer, pour que maintenant, quand elle le regardait, elle éprouva encore du plaisir à se dire « Je le vois, et cela ne me fait plus mal. Je l'entends, et cela ne me tue pas. » Il restait pour elle la chose retorse et sournoise, dont elle ne se rassasiait pas de ne plus souffrir. Pierre la distrayait. Il lui manqua beaucoup pendant une semaine qu'il passa à Anzin, au cœur d'une grève. Elle se consolait de son absence en étant orgueilleuse de lui. Elle voyait dans les journaux son nom mêlé à la controverse et pensait à lui avec les mains froides de la discussion et de la bataille. Madame de Fontenay aimait les choses de la foule et tout ce que la clameur contient de délire, de désordre, de sacrifice soudain et de faiblesse sacrée. Elle se représentait les victoires du droit, les fêtes populaires comme dans Michelet, sous un ciel haut et bleu, entre des rangs de jeunes arbres, dans des jardins ouverts, où, près de chaises de paille et de promeneuses en toile claire, tonne Danton, la tête renversée au bras de la chaude révolution. Quand Pierre Valence revint, Sabine le questionna impatiemment. Elle voulait tout savoir. Comment était la ville et les ouvriers, ce que disaient les ouvriers. Pierre raconta que l'un d'eux, étant mort, tué dans une charge de cavalerie, ses camarades lui avaient fait de belles funérailles. Quelle vie ! Soupirait la jeune femme. Et elle imaginait ses travailleurs, ressemblant tous aux mineurs de Constantin Meunier, nus, avec cette culotte de toile que la sueur leur colle aux hanches. « Est-ce qu'on chantait là-bas » demanda-t-elle. « Oui, répondit Pierre, l'international aux sonorités noires, la Marseillaise. »« Ah, la Marseillaise !» disait Sabine. « Quel prodigieux rythme d'ameutement ! Quel appel ! Il semble, n'est-ce pas, qu'au scandement impétueux du refrain, les gens, tous les gens vont venir. On les sent qui viennent, se rejoignent, se groupent, élargissent les rues de leurs coudes tant ils sont pressés, nombreux, infinis. C'est étonnant, ajoutait-elle d'une voix basse et lentement, la foule. » Le nombre, quelque chose que l'on est deux à aimer. Cela fait de l'amour, et quand on est cent à aimer cette chose, cela fait de l'héroïque. Les hommes qui réclament le droit de raisonner, de manger, de vivre, créent une religion, des symboles. Nous sentons en nous une puissance mystique s'émouvoir à l'idée du blé, du pain. Le dur pain de la faim quotidienne nous trouble jusqu'au rêve. Et de même le verbe, les livres, tout ce qui exalte la justice et la liberté. Ses yeux brillaient sur ses joues chaudes. N'est-ce pas, continua-t-elle d'une voix un peu sourde, l'héroïsme et la sensualité sont la même chose. L'héroïsme est la plus âpre sensualité. Je me souviens d'une bagarre dans laquelle, par mégarde, j'ai été prise, étant presque encore enfant avec ma gouvernante, un jour en hiver. On ne sentait plus le froid. Il y avait des cris, des chants. On se regardait sans se connaître, les pauvres, les riches, les ouvriers. On se regardait avec des yeux qui pénétraient, des rires fixes, mystérieux, qui mordaient les uns aux autres. Il y avait, près de ma gouvernante et de moi, deux hommes qui, poussés par les autres, nous poussaient, s'en excusaient. L'un était nu-tête, avec une veste en toile bleue, et l'autre devait être un étudiant. Son chapeau était cabossé, une longue messe de cheveux lui glissait sur l'œil. J'avais soudain en eux une confiance familière, absolue. Je leur parlais en jetant la tête en arrière pour qu'ils vissent mon âme dans mes yeux. J'avais envie qu'ils vissent mon âme. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y avait donc dans l'air? C'était plus fort, plus voluptueux, plus cruel à respirer qu'aucun printemps. Et les paupières de la jeune femme, étrangement baissées, diffusaient du souvenir et du plaisir. Avec de tels sentiments, elle se plaignait de ce que la revue socialiste, à laquelle Pierre Valence se consacrait, fut si emplie de questions économiques, de chiffres et de statistiques, dont la nécessité évidente ne la consolait pas tout à fait. Elle aimait le don de soi-même. Marie entrait difficilement dans les vues de sa belle-sœur. Sa compréhension, nette et morcelée, la privait des aspects d'ensemble qui permettent la certitude et la possession. Elle ne se prononçait pas, pensant bien que les autres devaient avoir raison. Mais, comme elle ne l'éprouvait point, sa conscience lui interdisait de se reposer sur leurs affirmations. Jérôme causait généralement avec Henri, qui l'écoutait plus que les autres, et le jeune homme, défiant des doctrines nouvelles, se rassurait d'entendre ses discours adroits, inoffensifs et confus, et de n'y voir pas clair. D'ailleurs, il ne s'occupait pas volontiers de ces questions qui irritaient le goût qu'il avait de confondre les vieilles lois avec la distinction des manières. Il s'était remis au travail et se plaisait dans l'atmosphère délicate et noble de l'harmonie. Sa femme se réjouissait de le sentir occupé, elle l'aimait soucieusement, tremblait des résolutions qu'il pouvait prendre et craignait cet enfant qui était le maître. Lui l'aimait sèchement et aigrement, comme le permettait son âme vaniteuse et personnelle. Quand il fut intéressé à l'opéra qu'il achevait, elle fut plus libre et put sortir avec Sabine comme autrefois. Les deux jeunes femmes étaient heureuses ensemble et Marie aidait de sa gravité sa belle-sœur à s'attendrir sur la bonté de Pierre Valence. Madame de Fontenay avait dans son caractère obscur un peu de candeur joyeuse, par quoi les aventures qui la touchaient lui paraissaient d'abord accomplies et parfaites. Elle devait à ce sentiment le plaisir vif, vague, précipitée, qu'elle prenait par instant à la vie, et cette patience qu'elle avait de ne point rechercher la suite des événements et de ne rien demander de distinct à l'avenir. L'amour de Pierre la contentait. Ils allaient avec Marie visiter les musées, les églises, les vieux jardins de la ville. Quelquefois le soir elle restait une heure seule avec lui, dans la pièce éclairée à la hauteur des visages de lumière voilée. Ils parlaient, s'interrompaient, on ne savait pas de qui venait la direction de la conversation, l'impulsion et l'élan, tant ils avaient de force tous les deux. Pierre ramenait volontiers les questions universelles sur les points sensibles du désir et de l'amour. Il était respectueux avec Sabine. Les seules tentatives de curiosité qu'il eût faites auprès d'elle, les seules audaces intentionnées de son esprit étaient, par moments, des interrogations un peu vives et nettes, malgré les détours, sur les goûts, la vie, l'avenir de la jeune femme. Mais ces choses énoncé à voix haute et simplement, semblait d'un confesseur ou d'un médecin, et Madame de Fontenay n'en avait ressenti après la première surprise que peu de gêne, de trouble et de plaisir. Il lui dit un jour, à propos d'un bouquet de roses qu'elle respirait passionnément, « Vous ne savez pas encore, madame, quelle force de vivre est en vous. Elle se répand sur vous, se trahit dans tous vos gestes. » Et chaque fois qu'il parlait ainsi, il semblait intéressé, amusé, perspicace. Quand cela eût dû, pensait Sabine, le jeter dans les délires du désir fixe ou de la colère. Elle s'offensait de ce que Pierre toucha avec des paroles ordinaires à ce que le silence et la compression eussent augmenté en lui. Un soir de pluie en février, il rencontra sur le boulevard Madame de Fontenay qui cherchait une voiture. Il arrêta un fiacre et proposa à la jeune femme de la ramener chez elle. Elle répondit, hésitant un peu, qu'elle voulait bien, et lui plaisantait, avec cette habitude qu'il prenait de défaire le mystère et la gravité de l'équivoque. Il s'inquiéta qu'elle fût bien installée dans cette voiture cahotante dont les vitres sonnaient. Il demandait qu'elle mît les pieds sur la boule d'eau chaude. Madame de Fontenay le remerciait, mais elle ne s'occupait pas en ce moment du froid et du chaud. Elle se sentait douce et fâchée et pliait un peu vers son compagnon, ne sachant plus si elle cherchait ainsi la sécurité ou le danger. Pierre, qui ne réussissait pas à remonter complètement une des vitres, s'en tourmentait et croisait sur les genoux de Sabine le manteau de fourrure qu'elle avait. Il s'émouvait de la voir dans cette voiture à sa garde. Il mit sa main sur la main de la jeune femme et d'une voix tendre, il lui dit « Mon ami ». Elle, qui ne pouvait pas savoir que Pierre était heureux, content, touché et plein de douceur dans son âme, avait fermé les yeux pour mieux goûter le moment où cette voix qu'elle connaissait bien se troublerait, dévirait, entrerait dans le magnifique inconnu. Pierre répétait tendrement « Mon ami » et veillait au vent de la fenêtre mal close. De moment en moment, à la lueur des réverbères, Madame de Fontenay, qui avait rouvert les yeux et se taisait, voyait le visage de Pierre Valence. Et de retour chez elle, réfléchissant, elle s'étonnait de ne pas lui avoir trouvé ce regard de rôdeur trouble, cet air de vague assassin vers l'amour qu'elle supposait aux hommes à l'instant des prompts désirs. Donc, elle le sentait. Pierre était content, il était heureux, mais était-ce la chose qu'elle cherchait? Était-ce bien ce qu'elle voulait? Donner du bonheur aux autres? Non! Elle était meilleure que cela. Elle-même n'avait pas aimé le bonheur. Elle avait toujours désiré pire. Et c'est pour Pierre surtout qu'elle lui souhaitait qu'il souffrît. Le sourd tumulte qui par moments traversait le cœur de cet homme se perdait trop vite dans son active gaieté. L'amour qu'il éprouvait pour Sabine était ses vacances. Il avait eu dans son passé beaucoup de tempêtes et maintenant il entrait dans la baie d'un plaisir qui durait, se renouvelait et ne le blessait pas. L'étonnement qu'il en ressentait le reportait à des états d'esprit plus jeunes, à l'insouciance et à la sécurité enfantine. Jusqu'à présent, il s'était tourmenté pour des femmes dont il avait eu envie brusquement, et il s'était toujours arrangé pour compliquer ses affaires. Il se lacérait le cœur de la pointe de leur regard, organisait le soupçon et la jalousie, pleurait pour les infidélités subtiles de leurs pensées, criait pour le souvenir de leurs cheveux et de leurs mains. Mais toutes ces choses étaient finies. Finies tout d'un coup, comme fini l'été un soir de pluie froide, comme fini l'ardente jeunesse. C'était des possibilités qui étaient sorties de lui. Sans qu'il le sût encore, son âme de désir désormais se reposerait. Il aimerait, sans cette fixité, ce choix terrible, étroit et tenace, qui autrefois faisait pour lui d'une femme incertaine et mobile la seule place possible du plaisir et de la vie, l'unique aspect de l'air natal sans quoi on ne respire plus bien. Maintenant, il se disait que toutes sont pareilles à peu près, mouvantes, trompeuses et perverses. Et s'il restait ainsi près de Sabine, c'est qu'elle lui paraissait un plus bel exemple de cette violence. Il distinguait dans les âmes féminines les plans principaux, la passion, la dissimulation, et il les voyait chez l'une comme chez l'autre. Il disait la ruse des femmes, comme il eût dit leur tempe douce. Cela lui semblait une affaire de race qu'elles avaient toutes en commun sans beaucoup de nuances. Il percevait mal le particulier. Et c'était ce que Sabine avait le plus vite senti, qu'elle n'était pas aimée comme elle l'eût voulu, pour l'unique forme d'elle-même, pour ces détails de l'âme et du regard que l'amour invente et emploie à se blesser. Mais Madame de Fontenay, dans son cœur, ne se plaignait pas. Elle sentait l'amitié de Pierre, pleine de sources intarissables. Cela suffisait. Autrefois, elle avait été exigeante. Depuis la connaissance qu'elle avait faite de Jérôme Hérel, elle savait qu'on ne possède pas le présent, que rien n'est sûr. Et elle tenait à tout, comme aux êtres qui vont mourir. Mais le retour du printemps l'agaçait. Elle disait à Pierre Valence, avec mauvaise humeur, « Comment empêcher le printemps ?»« Nous ne le verrons pas si vous voulez, » répondait-il. « Venez avec moi à la Bibliothèque nationale où je travaille. Vous vous promènerez aux manuscrits et aux gravures. Les demeures de la science ont un air plus vivifiant que celui des forêts. C'est vraiment dans ces salles qu'il faudrait aller à la campagne. Le silence et la profondeur dans le temps en font les lieux les plus secrets et les plus longs du monde. » Madame de Fontenay savait bien que, quoi qu'elle fît, elle souffrirait du printemps. Les yeux fermés, elle le sentait qui arrivait, avec ses heures lentes, ses nuages traînés sur du bleu vif, et toute l'odeur de l'aubépine. Dans le bois, près de chez elle, les buissons et les faisceaux d'arbres qui, l'hiver, ressemblaient à des fagots levés sur le ciel de pluie, se couvraient maintenant aux pointes des branches, de semis verts, de toutes petites feuilles gluantes qui sentaient la térébenthine. Et puis, c'était vers 5 heures le soir, un vent mou qui donnait mal à la gorge. Les mélancolies de la jeune femme déplaisaient à Pierre Valence. Il redoutait ce qui n'était pas le rire, la compréhension et la confiance. Pourquoi compliquait-elle ainsi la vie qui pouvait être si confortable et si facile? Marie était plus simple et jouissait de toutes les choses. Elle était véritablement attentive, tandis que l'autre, de jour en jour, n'écoutait plus qu'en s'irritant. Sabine n'avait pas même voulu entendre un soir ce que Pierre expliquait à Marie des théories de la régénérescence des cellules. Est-ce dans 15 ans, disait-elle, que cela empêchera le déclin, la vieillesse? Non. Alors, qu'est-ce que cela nous fait? Laissez-moi être triste. Elle était de ces êtres, sans marge sur le désir, qui n'ont pas beaucoup de temps, et qui veulent tout employer au bonheur. Mais il y a d'autres satisfactions, d'autres curiosités, madame, répondait Pierre, que la rêverie et la perpétuelle pensée de soi. Pas pour tout le monde, interrompait Sabine. Je n'ai pas le sens des degrés du plaisir. Il n'y a qu'un plaisir, c'est ce qui fait mal. Pierre la regardait, essayant de comprendre ce qu'elle pensait vraiment, ce qu'elle préméditait. Il croyait au déguisement éternel de la pensée des femmes, à la ceinture retenue sur la lettre amoureuse ou sur le poignard, et il souffrait confusément de la sentir secrète et encline aux obscures paraboles, car elle racontait une histoire de fleurs, une histoire d'enfance, pour libérer un bout de son âme. Pierre la grondait, amicalement soucieux d'elle. Il la croyait malade. Il lui expliquait que plus tard, elle verrait que la vie et l'aventure emploieraient ses forces sourdes. Elle dédaignait cette attitude de confident et de conseiller. C'était donc de cette manière qu'il l'aimait. Pourquoi ne l'aimait-il pas pour ce qu'elle avait en elle de vraiment mystérieux? Pour ses yeux, à plusieurs couches de regard, pour ses cheveux tièdes, comme les veines, ses cheveux noirs et âcres, qui avaient l'odeur du bois sec et de la fumée, pour son âme, enfin, au fond de laquelle, sous les ondes emmêlées, roulait l'enfantin caillou blanc du désir. Pierre Valence s'entretenait avec Henri de ce qu'on pourrait faire pour amuser Sabine, si bien qu'elle, ayant senti leur coalition affectueuse, avait repoussé un soir d'un rire méchant, qui était aigu et insolent comme un coup de coude, leur projet de l'emmener à la campagne. Marie reprochait à sa belle-sœur ses vivacités. « Tu n'es pas bien pour les pauvres qui t'aiment, lui disait-elle en l'embrassant. « Pas bien ? » ripostait Madame de Fontenay, et elle sentait ce qu'elle avait en soi qui souffrait du « médiocre » et du « morne » journalier. Mais elle s'observa pourtant et modifia son caractère. Plus de douceur l'emplissait. Elle avait de la tendresse pour Pierre. Ils s'étaient fait de la peine l'un à l'autre, et elle en éprouvait des remords. D'affreux remords sentimentaux, d'enfant qui s'est mis en colère, méchamment, un jour de fête, après les étrennes reçues. Que reprochait-elle à Pierre ? De ne pas mourir à cause d'elle ? Inviolable ? De respirer l'air de sa vie et de sa maison sans qu'il en fût bouleversé à l'image de Werther ou de Dominique ? D'aimer Henri, qui était son vieil ami, de parler avec Marie du fond de son cœur, de ne pas s'ennuyer avec les autres, de ne pas mentir, de ne pas être fourbe, de ne pas être ingrat. Elle le voyait bien, c'était de la folie. Aussi ne boudait-elle plus aux parties du soir qu'on faisait tous ensemble dans la beauté de l'été maintenant venue. Elle riait tout le temps, on pouvait la traîner dehors, dans les cabarets près des lacs d'où montait le brouillard, la faire manger sous la nuit bleue, avec des insectes sur la table, cela l'amusait. Elle revoyait gaiement, sur les nappes des restaurants, s'étaler, les habituels hors-d'œuvre, les petites tranches de tomates crues, vives comme de la chair, les céleris, qu'on devinait craquant comme des joncs, et gardant le goût de la terre, les olives, roulées autour de leurs noyaux, et tous les petits poissons d'argent, étranglés de poivre. On se passait ces plats d'attente, tandis que la musique de Bohême ou de Naples jouait. Un musicien, le chef, menait l'orchestre de son geste, riait en prestidigitateur de la réussite des mélodies, montait et abaissait d'un signe les tons des violons et témoignait d'une connaissance rusée du plaisir, des nerfs. Le visage, accéléré de fièvre, Sabine goûtait passionnément ces romances molles qui, sur les cordes glissantes des violons, faisaient déraper son âme du plaisir à la langueur. Mais comme elle se fatiguait, était-elle faite pour cette vie sans halte intérieure, dans les décors clinquants des cabarets de verre? N'était-elle pas au fond un être de solitude. Qu'avait-elle le plus aimé dans la vie? Le rêve, l'imagination, la paisible monotonie. Certainement elle avait dû être heureuse autrefois, au commencement de son mariage, quand elle peuplait de tant de vagues désirs la blancheur du vide, quand elle se réveillait lentement au matin, ne sachant pas l'année qu'il était, ni l'âge qu'elle avait, tant la douceur des jours lui semblait infinie. Comme elle s'était amusée en juillet, assise devant les graviers chauds des jardins, en automne, à courir le long du feuillage rouge des noisetiers où luisaient durement chevillées à leur capuchon vert les noisettes en bois de soie. Elle avait aimé aussi toutes les choses des maisons et des chambres, l'aurore d'été prise dans les rideaux de perse gommée, et quand on ouvrait la fenêtre les matins d'octobre, la première entrée du vent froid qui sentait l'anis et le raisin. Elle avait aimé de vieilles commodes à ventre rebondi, le tapis d'une table ronde faite du châle de son aïeul, des coussins à franges, des cache-pots, des écrans de cheminée en faille raide, d'un verre de cresson, tous les objets qui gardaient l'âme de Madame de la Sablière, de Lucile de Chateaubriand et de la reine Hortense.